dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et nous allons lire jusqu'au verset 8, le premier verset 1 jusqu'à 8. Notre thème ce matin, le titre, c'est « Appeler à la sanctification ». Appeler à la sanctification, c'est au verset 7, vous verrez qu'il dit « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification ». Je lis chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4 et au verset 1, il dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Donc, les versets clés pour ce matin, c'est déjà, je vais citer le verset 7 qui dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Mais au verset 3, il avait déjà dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Et là, nous voulons faire deux remarques. L'apôtre Paul n'écrit pas « Ce que Dieu veut, c'est votre salut. » Bien sûr que Dieu veut notre salut. Mais s'il nous sauve, c'est en vue de quelque chose. C'est-à-dire le salut n'est pas une fin en soi. Le fait de ne pas aller en enfer, et c'est, il a plus que ça pour nous. Ce n'est pas seulement de nous empêcher d'aller en enfer, mais c'est bien autre chose. Lorsque Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, c'était pas juste pour les sauver de l'esclavage ou les délivrer de l'esclavage. C'était pour les mener dans un pays qui serait le leur et où ils pourraient vivre pour lui et le représenter dans le monde. Dans Éphésiens 5, les versets 25 à 27, il nous dit que Dieu a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est-à-dire, il dit, si je vous ai tiré de la boue, du péché, c'était pour faire quelque chose. Si je fais l'effort de tailler une pierre à la carrière, c'est pas juste pour après ensuite dire, ben voilà, j'ai plein de pierres. Mais c'est en vue d'un édifice. C'est en vue d'un projet. Et Jésus dit, si je vous ai sauvé, c'est pour que, ensemble, vous tous, je puisse former une église pure, parfaite, irréprochable. C'est la plupart d'entre nous, si on creusait dans le jardin et en rencontrer et puis en trouver un diamant, mais à l'état naturel, certainement qu'on ne ferait même pas attention. On dit, tiens, un bout de verre. Ou, tiens, une pierre brillante, mais bon. Mais ceux qui reconnaissent, ils vont les récupérer. Et puis après, là, il y a quelqu'un qui va les tailler. Et après, là, ça donnera de la valeur. Et puis alors, là, ça commence à briller. Et tout ça, si on le fait correctement. Et surtout, si la pierre est pure et taillée. Et chaque fois, chacun prend cette pierre. Et puis, avant de commencer, il a une idée de ce qu'il va pouvoir faire en regardant la nature de la pierre. On ne sait pas, le diamant, bon, c'est pas comme ça qu'on les trouve prêts pour la bague. Mais, et quand le Seigneur nous trouve, c'est pas prêt pour l'épouse de Jésus-Christ non plus. Mais il nous prend, et puis après, il commence à nous tailler pour qu'on reflète au maximum la lumière qu'on reçoit, comme le diamant. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 22, il parle de la truie, où c'est la femelle du cochon, hein, la truie, qui est lavée. Il dit, elle n'est pas lavée pour qu'elle retourne se jeter dans la boue. Si on l'a lavée, c'est pour qu'elle soit propre. Et dans le même verset, il dit que ce ne sont que les chiens qui vont retourner vers ce qu'ils ont vomi. Mais l'enfant de Dieu qui a été délivré, eh bien, il ne retourne pas vers ce qu'il a quitté. Mais il est extrait de là, il a été lavé par le sang de Christ, et il est constamment lavé par le sang de Christ, parce que le sang de Christ nous purifie de tout péché, continue à nous purifie constamment de tout péché. Et ce péché-là, eh bien, maintenant, c'est pour que nous ayons un état nouveau. Donc ça, c'est la première remarque. La sanctification, il y a le salut. Dieu nous offre le pardon de nos péchés grâce au sang de Christ. Il dit, je pardonne tout. Ton casier judiciaire devient blanc devant Dieu. Mais il dit, mais maintenant, ça a été fait, c'est en vue d'eux. Hein? Donc maintenant, c'est l'objectif principal de chaque enfant de Dieu, la préoccupation, c'est de devenir ce que Dieu a pour nous et de le vivre pleinement. La deuxième remarque que je vais faire dans l'introduction ici, c'est de souligner le fait que Paul dit cela, non pas à l'église de Corinthe, qui est très charnelle, mais il dit à l'église de Thessalonique, qui va très bien. Ce sont des bons chrétiens. Hein, c'est ça qu'il a dit au début du chapitre. Il a dit, vous avez appris que vous devez vous conduire, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. Il n'a pas dit, commencez à faire Dieu, il dit, allez de progrès en progrès. Vous êtes dans la bonne direction, tout va bien chez vous. Et c'est à eux qu'il dit, la volonté de Dieu, c'est la sanctification. Donc, ce n'est pas quelque chose de réservé pour les mauvais chrétiens, c'est réservé pour nous tous. Et en particulier pour ceux qui sont vraiment attachés au Seigneur et qui veulent vivre pour lui. Ça peut arriver aux chrétiens de retomber dans le péché. David, hein, le roi, il s'est laissé entraîner. Certainement que quand il est monté sur le toit, il savait de ce qu'on pouvait voir de là. Hein, ce n'était pas juste un accident, la fraîcheur. Non, il avait une idée de ce qu'il pouvait voir de là. Et il a vu et il a été tenté. L'apôtre Paul parle aussi de Démas qui avait été un ouvrier avec lui, un serviteur avec lui, un coéquipier avec lui, mais il dira dans 2 Timothée 4:10, il dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Il a dit, Démas qui travaillait avec moi tout ça, mais quelque part il s'est laissé entraîner par les choses du monde, et il est parti à Thessalonique. Donc ces chrétiens sont à Thessalonique. Démas va chercher ce qui plaît à la chair à Thessalonique, mais ces chrétiens vont chercher la sanctification. Et Paul avertit les chrétiens, hein, 1 Corinthiens 10, verset 12, il dira « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Il dit « Oh, moi, ça m'arrivera jamais. » Eh bien, tu es le prochain candidat. Celui qui croit que ça ne lui arrivera jamais, c'est le premier qui partira. Donc, soyons attachés, soyons fidèles, gardons les yeux sur le Seigneur, reconnaissons notre faiblesse. Alors là, ce matin, bien, nous allons nous pencher sur trois aspects de cette question. La première, c'est comment on s'écarte, comment est-ce que ça nous arrive de nous écarter de la voie. Hein, je connais très peu de chrétiens qui, à l'avance, ont dit, moi, je crois que je vais devenir charnel. Non, c'est pas... En général, celui qui a vraiment compris ce que Christ a fait pour lui sur la croix, celui qui a vraiment été délivré, qui a marché, qui a goûté au Seigneur, eh bien, normalement, lui, il n'a pas envie de retourner. Et puis, essayons de comprendre... Deuxièmement, nous essayons de comprendre ce que Dieu désire pour nous. Donc... Premièrement, comment nous écartons-nous de la voie? Deuxièmement, ce que Dieu désire pour nous? Et puis troisièmement, ce que Dieu ressent lorsque nous nous égarons? Hein, c'est pas, oui, mais je fais ce que je veux, hein, c'est moi, je suis libre. Bon, tu es libre, mais il y en a d'autres qui sont affectés. Alors premièrement, comment nous écartons-nous de la voie? Eh bien, Ève... Notre mère Ève, qui était dans le jardin d'Éden, qui n'avait jamais vu le mal, qui n'avait jamais été tentée jusque-là, eh bien, a pu désobéir. On ne pouvait pas dire que c'était une mauvaise habitude qu'elle avait. Non, elle n'a pas vu. C'est la première fois, elle n'a jamais vu quelqu'un désobéir à Dieu. C'était déjà arrivé. Mais vous savez... Satan est venu et il a fait de la pensée de Ève un champ de bataille entre lui et Dieu. Il s'est servi de la pensée de Ève pour en faire son champ de bataille. Et il a cherché de gagner le contrôle du monde. Et il savait que s'il pouvait gagner cette bataille-là, eh bien, il aurait une influence sur toute la race humaine. Et Ève avait reçu en premier la parole de Dieu. La parole de Satan est venue après. Et dans un sens, ce qui s'est passé dans ce texte, c'est qu'elle a troqué la parole de Dieu pour la parole de Satan. Il y avait la parole de Dieu déjà. Dieu avait déjà dit, tu ne mangeras point de cet arbre. Mais quelque part, et Satan vient, et lui raconte, et puis il dit, oh, tu ne mourras pas. Mais Dieu sait que tu auras la connaissance du bien et du mal, tu seras comme un Dieu, tu seras une déesse. Eh bien, c'était à moitié vrai et moitié faux. Hein? La connaissance du bien et du mal, oui, elle l'a eu, elle l'a acquise. Après, il faut savoir quoi faire avec. Mais elle s'est laissée entraîner et elle a chuté. Et quand elle s'est laissée entraîner par cette pensée, eh bien, la vie pour l'humanité, l'existence pour l'humanité n'est plus pareille. Et elle, la première, a vécu, elle a vu son premier-né, Caïn, devenir un meurtrier. Et ça, parce qu'elle avait désobéi, parce qu'elle avait laissé influencer par Satan. Elle a fait appel à son intelligence pour décider qui avait raison. Et ben, son intelligence était insuffisante. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 1, 25, il dit « Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. » et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Et finalement, c'est ce que nous avons dans notre monde aujourd'hui. Il y a la Bible qui, là, qui dit, et puis après, il y a l'homme qui arrive et puis qui réfléchit avec sa tête et qui se trouve assez intelligent et puis il dit, non, c'est pas comme ça, on va pas faire comme ça, c'est comme ça. Le mariage ne sera pas comme ça, on va faire le mariage comme ça, les règles du mariage. Et puis après, et toutes les lois et tout ce que Dieu a instauré, eh bien, on propose autre chose. On entend tellement parler de liberté d'expression et l'homme fait semblant que c'est lui qui a découvert. C'est Dieu le premier qui a donné liberté d'expression. C'est Dieu lui-même qui donne l'autorisation aux hommes de dire ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il y en a qui peuvent dire n'importe quoi et ils ne sont pas frappés par la foudre. C'est Dieu le premier. Et pourquoi est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous croyons à la liberté d'expression? C'est parce que Dieu l'a donné. C'est pas l'État français qui nous le donne, c'est Dieu qui nous le donne. C'est parfois des États, c'est parfois les hommes qui nous l'enlèvent et qui nous privent de cette liberté d'expression. Mais c'est Dieu le premier qui l'a donné, c'est pour ça que nous y croyons. Et puis l'homme s'accapare de cela et fait comme si lui, nous on est pas mal, nous on donne la liberté d'expression. Écoute, tu n'as rien donné. Tu jouis de ce que... Et nous sommes favorables à cela parce que Dieu le donne. Et même si les hommes ne le donnaient pas, nous on le donne quand même. Et on respecte tout le monde, donne le droit à chacun de parler. C'est ça le chrétien, le vrai chrétien. Pas la religion chrétienne, ça n'a pas été toujours tolérant. Et c'est pour ça qu'il y a des choses dans l'histoire au nom de la chrétienté qui sont gênantes. Mais pour ce qui est de l'enfant de Dieu, des vrais croyants, on a toujours cru à la liberté. Et c'est Dieu, le libre arbitre, c'est qui est-ce qui l'a donné? C'est Dieu qui l'a donné. Et nous y croyons, et c'est une chose à laquelle on tient, c'est ce libre arbitre, chacun de pouvoir choisir. Donc c'est... je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais en tous les cas, sachant que Satan, il vient, il s'accapare de ce que Dieu a déjà donné, et puis il essaye de faire semblant que c'était lui. Mais c'est, le problème, c'est l'intelligence humaine. La capacité qu'Ève avait, ce n'était pas de choisir entre le bien et le mal. La capacité qu'elle avait, c'était de choisir d'obéir ou de désobéir. C'est la seule liberté que Dieu lui a donnée. C'est obéir ou ne pas obéir. Et le résultat, c'est qu'elle... elle s'est laissée entraîner par ses sens. Elle a vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous dit, elle a vu que l'arbre était bon à manger. C'était le test physique. C'est le sens. Ah, c'est beau. Ah, c'est bon. Et donc, si je trouve que c'est bon, si j'ai goûté et j'ai trouvé que c'est agréable, donc c'est permis. Et c'est beaucoup de monde s'est laissé entraîner, embrigader dans toutes sortes de choses qui sont devenues des drogues, qui sont devenues. Pourquoi? Parce que leur choix était basé sur le fait j'ai goûté, c'était agréable. Mais oui, le péché est toujours agréable la première fois. Mais après, c'est ce qui vient après. Elle a trouvé que c'était agréable à la vue. Le test esthétique. C'est joli. Ben oui, vous n'avez jamais vu quelqu'un vous proposer quelque chose de pas joli pour vous tenter? On ne vous tente jamais à quelque chose de désagréable. Hein? On ne dit pas, tiens, goûte ce cafard. Non, c'est jamais arrivé. Hein? Il n'y a personne ici, je suis sûr. Et puis après, elle a vu que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence et le test intellectuel. Alors, comme si chacun se dit, moi, mon cerveau, il est suprême. Il décide de tout. Si je trouve que c'est mon cerveau, il me dit que c'est bien, eh bien, c'est bien. Et tu te prends pour qui? Hein? Et on veut, je dis, moi, si j'arrive à le comprendre, je le crois. Si j'arrive pas à le comprendre, ta tête, elle est petite, hein? S'il fallait réduire l'univers à ce que ma tête peut absorber, eh ben, il y aurait beaucoup de choses qui ne seraient pas là. Il n'y aurait même pas le moteur de ma voiture. parce que je ne peux pas, je ne saisis pas. Et encore, et puis on veut que Dieu passe par. Je ne comprends pas Dieu. Et alors, tu veux le réduire un entonnoir comme ta tête et ton cerveau, tu veux le faire passer par là? Ben, il ne sera pas très gros, hein. Mais combien de fois et on se met dans cette situation et on fait des mauvais choix parce qu'on se sert de nos sens, on se sert de notre appréciation de l'art, on se sert de notre intelligence. Et bien même les plus intelligents du monde, et bien ne sont pas capables de faire les choix qui sont nécessaires. Et c'est pour ça que nous avons la parole de Dieu. Si Dieu savait qu'on pouvait trouver la vérité tout seul, ben, il n'aurait pas envoyé des prophètes. Il nous aurait laissé découvrir comme on a découvert beaucoup d'autres choses et comment nous utiliser ce qui est dans la nature pour nous servir. Mais nous avons été formatés de manière à croire que les médias disent la vérité. Hein? Entre nous, on dit, ah, ils racontent n'importe quoi, c'est des menteurs aux médias. Mais d'un autre côté, on est influencé par les médias. Hein? Et on se fait des idées. Et vraiment, pour voir clair, on est obligé de chercher dans tous les sens. Et dans un pays, dans un autre, dans une religion, dans une autre, chacun réagit en fonction des informations qu'on lui donne. Ça fait une grande partie des problèmes qu'on a dans notre société et dans notre monde. Mais ce ne sont pas les médias, c'est vers la parole de Dieu qu'il faut se tourner pour connaître la vérité et pour avoir le discernement. Les gens me disent, écoute, je vais lire et je vais voir si je crois, donne-moi une Bible, je vais la lire, je vais voir. C'est pas une question, c'est pas toi qui testes la Bible, c'est la Bible qui te teste toi. Et qui te dit dans quel état tu es. Mais on se donne cette dimension divine où c'est nous qui testons tout. Moi, je vais voir si ça m'intéresse ou pas. Je vais voir si Dieu, j'en ai besoin ou j'en ai pas besoin. Mais qu'est-ce que tu en sais? Mais encore aujourd'hui, même les chrétiens, si vous voulez, même les chrétiens, nous chrétiens, on a été encore tellement influencés que même quand on lit la parole de Dieu, on dit, mais ah non, je suis d'accord avec, non, ça, je ne suis pas d'accord avec, non. C'est un tout. Dieu, ce n'est pas un supermarché où on va avec un caddie, on prend ce qu'on veut et puis on laisse le reste. Dieu, c'est une personne, hein. Quand j'ai pris ma femme comme mon épouse, j'ai pris tout ce qu'elle est. Bon, j'ai découvert des choses depuis que j'ai prise. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais elle a eu les mêmes surprises, peut-être plus. Donc, ça va. Mais on prend, c'est un colis. On prend tout. Donc, comment est-ce qu'on s'écarte de la pensée de Dieu? Eh bien, c'est lorsque j'essaie d'utiliser mon cerveau pour déterminer, alors que c'était jamais prévu. Hein, le cerveau, c'est pour savoir mettre en pratique ce que Dieu nous enseigne. Et puis, dire, il paraît que l'être humain, dans la vie, il se sert d'un très petit pourcentage de son cerveau n'importe comment. Et après, je veux que ma tête décide. Et je ne me sers même pas de toute la tête que j'ai. C'est déjà merveilleux ce que le cerveau fait. Et ceux qui l'étudient sont encore fascinés par ce que ce cerveau peut faire. Et comment il s'adapte. Et c'est extraordinaire. Heureusement que Dieu a mis notre cerveau dans un os. Si on l'avait mis ailleurs, il aurait été déjà abîmé combien de fois? Les avertissements que l'apôtre, que Dieu nous donne, eh bien, sont là. Et ce que nous devons comprendre, ce n'est pas une question de « ça me plaît, ça me plaît ». Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Et Paul nous rappelle ici dans ce passage, au verset 4 et 10, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4, dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps. Posséder son corps. Ce n'est pas mon corps qui décide, c'est moi qui décide ce que fait le corps, c'est moi le maître. Mais pour combien de personnes, c'est le corps qui décide. Ça lui plaît pas, il veut pas, il aime ça, puis on se laisse entraîner par des désirs, des passions, des ceci, cela. C'est pas le corps qui décide. De nos jours, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on dépense sur le corps et on ne pense même pas aux besoins de notre âme, sauf quand il y a de gros problèmes, après on va voir un psy. Mais il y a des soins avant. Et puis après, après, l'esprit de l'homme, hein, pour ceux qui disent, alors là, personne n'y pense. Tout est pour le corps. Mais ce n'est pas le corps, il dit, sachez posséder le corps. Le corps est là pour vous servir. Le corps est là, c'est cette enveloppe dans laquelle vous habitez. Prenez soin, respectez-le. Et Dieu le respecte parce qu'il en fait le temple du Saint-Esprit. Donc déjà, il montre un grand respect pour le corps. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le corps, c'est pas quelque chose à mépriser. Pendant longtemps, on a cru que pour être spirituel, il fallait mépriser le corps. Donc on se privait, on devenait ermite, on faisait n'importe quoi pour contrôler le corps. Mais Dieu donne la valeur au corps. Parce que quand l'enfant de Dieu meurt, son esprit va vers Dieu. Mais il y a un jour où Jésus-Christ reviendra récupérer le corps et ressuscite le corps. Et s'il revient, il dit, moi, j'ai acheté l'être tout entier. Et le corps est important aussi. Et si lui le considère important, nous aussi. Et c'est pour ça que, en tant que chrétiens, nous ne voulons pas abuser du corps. Ni par ce que nous consommons, ni par ce que nous faisons. Hein? On le respecte. Pourquoi? Parce que Dieu a donné de la valeur à ce corps. Mais il n'est pas tout. Il faut savoir le posséder. Hein? C'est comme... Il parle ailleurs de l'argent, il dit, c'est pas l'argent qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Parce que quand on aime l'argent, après l'argent a un pouvoir sur nous. Et nous devons faire très attention. Oui. Et vous entendez les informations, comment quelqu'un est capable de poignarder quelqu'un pour 50 euros. C'est pas la somme d'argent, c'est le fait que je le veux. Et c'est l'amour de l'argent, c'est le désir de l'argent. Combien ont renversé des dames âgées rien que pour avoir le sac et avoir les quelques euros qu'il y a dedans. Et elle a cassé un membre et puis elle sera dans un lit pendant des mois. Pourquoi? Parce que lui, il lui fallait à tout prix quelques euros. Et il dit, sache posséder le corps. L'enfant de Dieu est quelqu'un qui peut posséder son corps, qui le contrôle. C'est lui qui décide où va son corps et ce qu'on en fait et ce qu'on n'en fait pas. Ce n'est pas les autres. Et il dit aussi, sache posséder son corps sans vous livrer à une convoitise passionnée. Hein, cette convoitise, c'est ce qu'on voit, ce qu'on veut, ce qu'on désire à tout prix. Et passionné, c'est quand ça devient vraiment, ça prend le contrôle. Il dit ça, c'est seulement les païens, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais l'enfant de Dieu, c'est autre chose. C'est pas ses désirs, ses passions qui le contrôlent. C'est Dieu qui le contrôle. Et il continue... Verset 6, et ces personnes usent envers leurs frères de fraude, de tromperie, de cupidité. Cupidité, c'est le désir de ce que l'autre a dans les affaires. Il dit, celui qui le pratique, et même le frère qui pratique cela, Dieu vengera. Hein, donc ce n'est pas à moi de me venger, c'est le Seigneur réglera, fera justice dans tout cela. Comme il nous dit dans Romains chapitre 12, les versets 19 et 20, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, ce que nous désirons, c'est pas le comportement de l'autre. Il m'a trompé. Alors, moi, je l'aime plus. Mais avant, finalement, c'est lui qui te contrôle. Il t'a trompé. Maintenant, il domine sur tes sentiments. Tu as de la haine au lieu de l'amour. Dis non, laisse. Il t'a trompé. Eh bien, tant pis pour lui. Dieu s'en occupera. Moi, je continue à aimer parce que c'est ce que Dieu veut pour moi. Je continue à aimer. Bien sûr, ce n'est pas les sentiments qui règnent dans notre monde aujourd'hui, mais ça, c'est autre chose. Ils ne sont pas enfants de Dieu, donc c'est normal qu'ils se comportent de cette manière-là. Ces avertissements sont intemporels, hein, c'est pour toujours. Il nous dit au verset 2, il dit « Ces préceptes, eh bien, ils viennent du Seigneur, hein, et puis voilà. » Le Dieu qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » et celui qui a dit aussi « Tu ne voleras point ». Pour lui, c'est pareil. C'est une question, c'est pas est-ce que les dégâts qui déterminent, c'est le fait que Dieu l'ait dit. Hein. Je désobéis autant quand je mens que quand je commets adultère ou quand je commets un meurtre. Parce que dans les deux cas, c'est de la désobéissance. Et il dit, celui qui, Jacques chapitre 2, verset 10 à 11, il dit, celui qui est coupable d'un commandement devient coupable de tous. Pourquoi ? Parce qu'il devient désobéissant. Qui est plus voleur ? Celui qui vole une poule ou celui qui vole un avion ? Les deux sont voleurs. On dit voleur, on ne dit pas... Bon, on peut dire un grand voleur, on peut dire... Mais il est voleur. Vous savez, vous qui êtes à l'école encore et faites des maths, et vous avez des devoirs, et quand vous arrivez au collège, les devoirs, eh bien, chaque réponse dépend de la réponse qu'on a eue avant, et c'est lié. Et si on se trompe à la première question, alors tout le devoir est faux. Hein, c'est terrible. Quand on est dans les petites classes, on a 2 plus 2, et puis enfin, on se trompe là. Mais au moins, tout n'est pas lié. Mais on arrive au collège, une erreur à n'importe quel point, et puis tout est faux. Et il suffit d'une seule erreur, quelque part. Et tout le devoir est raté. Et en fait, il nous dit, c'est pareil pour les commandements de Dieu. À partir du moment que je désobéis à un commandement, tout le devoir est mauvais. Et je dois confesser mon péché. Je ne vais pas me dire, mais j'ai jamais commis de meurtre, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Des petits péchés, des petits mensonges. Il y a des dimanches, je suis resté au lit, mais c'est pas grave ça. Non, il dit, si tu respectes le sabbat, respecte le sabbat. C'est pareil que tu ne commettras point de meurtre. C'est pareil, c'est le même principe. Pourquoi ? C'est parce que c'est la volonté de Dieu. Et ce qu'il désire, c'est notre sanctification. C'est que la sanctification, c'est où de plus en plus, je deviens comme lui. Vous avez entendu parler de la pétrification. Hein, c'est la pétrification... Aux États-Unis, il y a une grande forêt pétrifiée. Ce sont des arbres qui sont abattus. Mais en fait, au fur et à mesure que le bois se décomposait, ça a été remplacé par un grain de sable. Et finalement, on peut aller là-bas, on trouve tous ces souches d'arbres qui sont là. C'est exactement comme des souches d'arbres, mais c'est de la pierre. C'est-à-dire toute la cellule, les cellules organiques ont été remplacées par du sable. Et ça fait une pierre. Et on arrive à les tailler comme de la pierre et tout. C'est de la pierre. C'est-à-dire, ce qui était... pouvait se décomposer, hein, c'était organique, remplacé par quelque chose qui demeure. En fait, c'est ça, la sanctification chez l'enfant de Dieu, c'est que tout ce qui était du monde, tout ce qui est péché, c'est remplacé. Chaque fois, on le remplace par quelque chose qui est attrait à Jésus-Christ. Et finalement, je garde la même tête. Steve ressemble toujours à Steve. Mais dedans, le comportement, le caractère, la personnalité, eh bien, elle reflète Jésus-Christ. Et c'est ça, s'il fallait inventer un mot, eh bien, je dirais la sanctification. Un autre mot, ce serait la christification. Où petit à petit, c'est Christ qui remplace ce qui était du péché dans la personne de Steve. La personnalité, on la garde. Hein. C'est la nature pécheresse qui est transformée. Et comment est-ce que Dieu ressent ce fait que nous nous égarons de lui? Eh bien, c'est une désobéissance. Il nous dit, au verset 7, il dit, « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a donné son Saint-Esprit. » Il rejette Dieu. Et ça, il parle de l'enfant de Dieu. Il ne parle pas des gens du monde. Il parle de l'enfant de Dieu. Il dit, quand il y a quelque chose que Dieu désire, et toi, tu dis, « Ah non, moi, ça c'est trop, là, je peux pas. » Eh bien, tu rejettes pas, tu rejettes Dieu. Dieu qui t'a fait la grâce de te donner l'Esprit Saint. Dans Jérémie, chapitre 7, et les versets 8 à 11, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple qui devait être une lumière pour les nations et leur faire connaître Dieu, ce qu'ils n'ont pas fait. Non seulement est-ce qu'ils n'ont pas fait connaître, mais ils n'ont pas suivi eux-mêmes. Et au verset 8 à 11, il dit, « Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. » Quoi ? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à des Baals, c'est-à-dire les divinités, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Il dit, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Vous voyez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais vous avez connu. Et quand il donne la liste, finalement, on retrouve presque tous les commandements. Hein. Il dit, vous avez désobéi à tous ces commandements, et ensuite vous venez au temple, et puis vous lui offrez des sacrifices. Il dit, non, mais vous prenez le temple pour une caverne de voleurs? Parce qu'une caverne de voleurs, c'est là où les voleurs se retrouvent. Et il dit, vous commettez tous ces péchés pendant toute la semaine, et ensuite vous revenez ici, et vous réunissez, et dites, voilà, on est là pour le Seigneur. Il dit, non, ben, vous allez transformer ça en caverne de voleurs. Vous savez ce que Jésus a fait, hein, il a dit à son époque, il les a chassés, et puis il a dit, ma maison sera une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Il dit, mais comment ils en ont fait une caverne de voleurs? Mais c'est par la vie qu'ils mènent tout le long de la semaine. Et donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul nous rappelle à ces chrétiens qui vont très bien, donc c'est pas une question de... Il dit, mais c'est pour vous encourager à aller de progrès en progrès, c'est-à-dire d'accomplir la volonté de Dieu, cette sanctification. Il dit, il ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. L'impureté et la sanctification, c'est des états contraires. Hein? C'est deux choses qui ne se mélangent pas. C'est l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Et ça n'a pas à se mélanger en nous. Et donc, c'est pas une question, on ne va pas à l'église pour essayer de rattraper les bêtises de la semaine. Non, c'est parce qu'on a vécu pour le Seigneur pendant la semaine que aller à l'église le dimanche matin, adorer Dieu, ça a un sens. C'est pas à l'église qu'on règle son péché, c'est à la fin de chaque journée qu'on règle son péché avec Dieu, et puis on vient à l'église, c'est pour adorer Dieu parce que les choses sont réglées. Et c'est... Il nous dit, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, 15 et 16. Il dit Dieu est saint. Et c'est normal que nous soyons saints. Il a dit aux enfants d'Israël dans le désert, et il le répète à nous, nous devons vivre cette vie de sainteté. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas une adhésion à un mouvement, vous ne soyez pas membre d'une église baptiste ou membre de n'importe quoi, ce n'est pas important. Est-ce que je vis pour Jésus-Christ ? C'est ça qui importe. C'est ça qu'il désire. Il ne demande pas une adhésion à un mouvement, il demande à ce qu'on soit, on vive la vie de Christ à chaque jour. Et si les chrétiens vivaient la vie de Christ, tous les chrétiens, ou tous ceux qui se disent chrétiens, en tous les cas, vivaient la vie de Christ, eh bien, les gens n'auraient pas le même langage vis-à-vis du chrétien. Mais peu importe, pour nous, moi, je suis responsable pour moi, pas pour les autres. Je suis responsable pour ma propre vie. Comment je vis pour le Seigneur ? Et est-ce que je vis pour lui, là où je suis ? Alors que le Seigneur nous aide à être fidèles et vraiment, est-ce que je veux plaire à Dieu ? Il m'a sauvé, pas pour me sauver, il m'a sauvé pour que je vive pour lui. Si l'autre a creusé dans la terre pour trouver des diamants, quand il a trouvé les diamants, c'est pour que ça soit taillé et que ça prenne de la valeur et que ça brille. Dieu fait la même chose pour nous. Alors qu'il nous aide, prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, ce rappel. Parfois, nous sommes tellement pris dans la vie de tous les jours, entraînés par les autres et par le mouvement et par le langage, et puis on finit par ressembler au monde qui nous entoure. Mais Seigneur, donne-nous de garder notre identité si nous sommes enfants de Dieu, de toujours être à toi là où nous sommes, et de ne pas nous laisser infiltrer par les pensées du monde. Et Père, nous te prions de nous aider. Je prie pour ceux qui seraient parmi nous, qui ne te connaissent pas encore, qui ne sont pas à toi. Seigneur, qu'ils puissent te désirer parce que tu as cette belle œuvre que tu veux faire dans chacun d'entre nous. Et tu peux la faire. Et tu l'as fait déjà pour tant de personnes dans notre monde. Père, donne-nous d'être attachés à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Je propose le cantique 260, « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. » 260, ce sang a été versé pas uniquement pour nous sauver, mais aussi pour nous purifier chaque jour, afin que nous puissions devenir à l'image de Christ. 260.